On se souviendra que le peuple se ruait pour voir cette magnifique cavalcade, mais que François, lui, ne permit qu'à un seul de ses frères de quitter leur cabane et d'aller sur le passage de l'empereur, lui rappeler que la gloire humaine ne durait pas. En 1218, du saint et de l'empereur fou, lequel des deux pensait encore à cet incident? L'un et l'autre, peut-être, constatant la fragilité de la gloire. Un peu plus d'un mois après, le 25 juin, la mort frappa son autre coup spectaculaire sous les murailles de Toulouse. Guy de Montfort, frère de Simon, fut blessé par une flèche tirée de la ville, et son frère courut aussitôt à son secours pour le dégager. Quelque chose alors se produisit qui jeta le désarroi dans les rangs des croisés. Des dames et des demoiselles qui défendaient leur ville avec l'intrépidité de leur sexe maniaient un pierrier, et visèrent si juste que la lourde machine envoya sa pierre là où elle devait changer le destin. Fracassant le heaume d'acier du comte de Montfort, elle fit une bouillie des yeux, de la cervelle, des dents et de la mâchoire. Simon de Montfort tomba par terre mort, sanglant et noir. Le siège fut levé. À ce moment de l'histoire, les nouvelles voyageaient plus vite que nous serions tentés de le croire. Elles traversaient l'Europe qu'elles tenaient en haleine plus encore qu'aujourd'hui, à cause précisément des intervalles d'expectative. Après la mort sinistre d'Othon, la révélation du sort tragique de Simon de Montfort dut parvenir aux oreilles de François. La croisade finissait, et l'hérésie cathare était écrasée sur cette terre de Provence vers laquelle les regards du saint s'étaient si souvent tournés. Pour faire triompher la foi, que de sang avait dû couler! S'ajoutait l'horreur des bûchers. L'hérésie avait ses martyrs, elle aussi. Si le mot de Tertullien était juste, quelle moisson allait-elle faire lever dans la suite des temps? François pouvait remercier Dieu qu'en Italie, l'Église n'avait pas eu à remporter de victoires aussi coûteuses. Se rendait-il compte que sa seule présence et la douceur de la prédication franciscaine avaient suffi pour que disparût l'erreur étrange qui faisait des corps l'œuvre de Satan et niait que Jésus fût Dieu? On le suivait, le poverello, comme on eût suivi le Christ. Nul besoin de chevaliers en armes, de massacres et de supplices. La voix venue des pages de l'Évangile gardait toute la simplicité du message originel. Où était la limite de ce pouvoir plus fort que la violence des armées? Ne pouvait-on croire que François finirait par convertir le monde? Mais que valent les rêves des plus grands visionnaires quand les experts s'appliquent à y mettre de l'ordre? Des transformations étaient inévitables, qui ressemblaient singulièrement à des déformations dictées par le bon sens. Cependant, une multitude d'hommes affluait vers François d'Assise. Des couvents s'élevaient, des règlements alourdissaient le texte initial d'une brièveté implacable. Le succès s'annonçait énorme. Le rêve de 1209 risquait de sombrer dans la réussite. Aux hommes rouges. Néanmoins, il savait agir et défendre ses idées. Après tout, c'était pour Dieu qu'il s'agissait de se battre. On ne voulait pas lui permettre d'aller en France. Frère Pacifique ira à sa place. Ce fut vers ce moment que, sur la demande du cardinal d'Ostie, il fut invité à prêcher en présence du pape et de ses cardinaux. Tous, en effet, se montraient curieux d'entendre cet homme célèbre dans toute l'Italie pour ses dons d'éloquence qui le distinguaient des prédicateurs les plus savants. Sans doute voulait-il aussi, en bon théologien, s'assurer de la pureté de sa doctrine. Ne savait-on pas qu'il n'avait point fait d'études? Une surprise les attendait. Le cardinal d'Ostie aimait François et voulait qu'il se tirât à honneur de cette épreuve. Aussi lui composa-t-il lui-même un sermon en latin solide et bien tourné. François reçut le conseil de l'apprendre par cœur, ce qu'il fit très docilement, et quand il parut devant la très intimidante assistance, il constata qu'il ne se souvenait plus d'un traître mot du texte qu'il savait si bien la veille. Ici parut l'homme de Dieu. Sans se troubler le moins du monde, il se recueillit un instant et pria le ciel de lui venir en aide.